France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Savez-vous vraiment ce que vous regardez dans un musée? D'où viennent toutes ces œuvres d'art? Qui les a mises là? Quand et comment? Frise du Parthénon, buste de Cléopâtre, sarcophage, le trafic d'art a peut-être toujours existé, mais il est devenu depuis quelques années un sujet. Comment des œuvres d'art pillées se sont-elles donc retrouvées dans les plus grands musées? Comment les repérer? Comment les tracer? Comment les restituer? Et si l'art n'était plus désormais une question de goût, mais de justice et de droit?
Docteur Jones, encore une fois, vous le voyez, il n'est rien que vous ne possédiez dont je ne réussisse à m'emparer.
Dommage que les Ovitos ne vous connaissent pas comme je vous connais, Belloc.
Oui, c'est dommage. Et c'est dommage, évidemment, que vous ne parliez pas Ovitos.
Au calme, mon trousseau ! En bâtard !
J'avais l'idole, Marcus. Je la tenais, je l'avais dans la main.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Devinez?
Non. Je suis sûr que tout ce que vous faites pour le musée obéit strictement aux articles du Traité international de protection des antiquités.
Oh, elle est splendide, Marcus. Je peux encore la voir, je sais comment. Il n'y a qu'un endroit où il pourra la vendre, Marrakech. J'ai besoin de $2,000.
Écoutez, mon vieux, regardez. J'ai amené deux personnes. Attends. Qui veulent absolument vous consulter.
Regardez. Regardez ces pièces, elles ne sont pas belles, Marcus. Regardez.
Indiana. Le musée s'emportera acquéreur comme d'habitude, sans poser de questions. Oui, elles sont intéressantes.
Elles valent au moins le prix d'un billet pour Marrakech.
Les deux personnes dont je parlais sont importantes et elles vous attendent.
Quelles personnes?
Service secret de l'armée. Ils ont su votre retour avant moi et avant vous. Ils semblent tout savoir, d'ailleurs. Et naturellement, ils ne disent rien.
Je ne vois pas ce que ces gens me valent. Qu'est-ce que j'ai encore fait?
Bonjour, Vincent Michel.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en archéologie de l'Antiquité classique d'Orient à l'Université de Poitiers. Vous êtes membre du laboratoire ERMA, on dit bien, on prononce bien comme ça, ERMA.
Oui.
Vous faites des fouilles en Orient depuis une trentaine d'années et vous êtes très engagé dans la protection du patrimoine comme expert national et international contre le trafic illicite des biens culturels. Quand je vous ai dit qu'on allait ouvrir l'émission avec un extrait d'Indiana Jones, vous m'avez dit « Oh là là, on ne peut pas faire plus caricatural pour parler de mon métier ». Alors pourquoi Indiana Jones, c'est une caricature de l'archéologue?
C'était une caricature parce qu'il travaille souvent tout seul. Et puis, c'est sûr que c'est toujours la quête du bel objet. Alors, j'ai pas réalisé qu'à un moment donné, dans le dialogue, il allait pouvoir refourguer effectivement un objet à un musée sans que le musée pose de questions.
Voilà. Alors,
effectivement, les choses ont quand même bien changé, puisque maintenant, on s'intéresse plus tellement uniquement au bel objet, puisqu'on s'intéresse aussi bien à la petite cuillère de la ménagère jusqu'au temple, puisque l'idée, en fait, à travers l'objet, alors, c'est pour ça qu'il y a une chose, les moyens d'acquisition de l'objet, il n'est pas toujours très clair. Moi, je travaille toujours en équipe, lui travaille toujours plutôt tout seul, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que c'est vraiment à travers l'objet que nous allons pouvoir raconter une histoire. L'archéologue, c'est vraiment un conteur d'histoire. Alors, les historiens se servent effectivement des textes, mais aussi des vestiges. L'archéologue, lui, il prend conscience qu'à un moment donné, les vestiges ont été enfouis et il s'agit de les dégager et de les dégager avec méthode pour raconter en fait cette histoire. Et c'est vrai qu'on est tous émerveillés lorsqu'on va dans un musée, lorsqu'on est émerveillé lorsqu'on lit un livre d'histoire, de voir que il y a une trame chronologique. Alors, on le comprend lorsque l'histoire, c'est-à-dire lorsque l'écriture apparaît, en moins 3000, donc là on commence à avoir des textes, mais avant. Et avant, ce sont des artefacts, ce sont des objets, ce sont des cruches, c'est des pièces de monnaie, c'est toutes sortes d'éléments qui, mis à bout, nous permettent en fait de raconter cette histoire.
Alors vous l'avez dit, Indiana Jones, il travaille seul, vous travaillez en équipe, il est à la recherche du bel et unique objet, alors que vous, c'est tout un ensemble d'objets que vous mettez en avant, que vous fouillez. Et puis vous dites aussi que Indiana Jones, il refourgue cet objet qu'il a trouvé à un musée, qui se pose pas trop de questions. Alors ça n'a plus non plus vraiment lieu d'être. Maintenant, les musées, quand même, il y a une forme de surveillance, de contrôle des objets qui y sont exposés.
Oui, je pense qu'on est vraiment vraiment rentré dans une exigence, en fait. C'est vrai que le dernier rapport demandé par notre ministre de la Culture à la commission Labourdette, c'était ça aussi. C'était alerté sur un phénomène, et ce phénomène, c'est la vulnérabilité. En fait, les musées... La vulnérabilité, en fait, des mondes de l'art. Alors que ça soit des musées ou, les marchands de l'art. Mmh. Pourquoi ? Parce que avant, on pouvait faire l'acquisition, d'un objet, pas forcément sans se poser de questions, mais on était aussi exigeant par rapport à l'histoire, par rapport à la provenance, par rapport à l'origine. Ça, on exigeait tout ça, mais on se disait pas forcément que derrière les documents, derrière l'objet, pouvait aussi se cacher autre chose, une autre réalité. C'est-à-dire que l'objet peut-être avait été pillé, peut-être que l'objet avait été volé, peut-être que l'objet avait été maquillé pour qu'on ne puisse pas reconnaître en fait, l'origine de l'objet. On se demandait pas forcément d'éplucher les documents, puisqu'en fait, on s'aperçoit très facilement, et c'est vraiment, lorsqu'on parle de lutte contre le trafic illicite, on parle aussi de blanchiment, c'est-à-dire comment faire pour qu'un objet qui a été déterré illégalement, ou comment faire pour qu'un objet qui a été volé dans une collection privée ou une collection publique puisse, une fois blanchi, se retrouver sur le marché de l'art légal. Mmh. Et donc là, les trafiquants sont d'une rare ingéniosité. Et donc, l'idée maintenant, c'est de combattre cette ingéniosité, non pas au service du bien, mais au service du mal.
Et donc, vous procédez à la source, vous, en tant qu'archéologue, ou vous voulez plutôt sensibiliser les musées qui sont vulnérables. Par exemple, quand on va au musée, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un certain pourcentage d'œuvres d'art pillées?
C'est tout le travail, c'est tout le travail qu'on est en train de faire, que chacun des musées est en train de faire. Laurence Descartes a commencé aussi pour le Louvre.
La prise de conscience, en fait, elle est actuelle.
Oui, la prise de en fait, c'est vraiment un phénomène qui est ancien. C'est sûr qu'on
toujours existé. Le pillage, il y a toujours eu de la circulation d'œuvres d'art,
exactement,
plus ou moins légales.
Tout à fait. Alors en fait, vous prononcez le mot clé, le mot légal. C'est en fait, c'est la loi. C'est la loi qui dit, c'est-à-dire avant, si on peut prendre un exemple, avant 1941 par exemple, avant 1941, donc avant la loi Carcopino, donc qui est l'une des très rares lois qu'on a conservées du gouvernement de Vichy, bien avant vous pouviez vous baisser, vous pouviez effectivement commencer à faire des fouilles et vous approprier en fait vos découvertes.
Quel que soit, dans notre jardin ou dans la rue.
Exactement, partout, voilà. Mais le lendemain, c'est-à-dire le même geste devient illégal. Le lendemain, on vous dit, non. En fait, maintenant, ceux qui veulent fouiller, en fait, le sol, dans le but, justement, de raconter une histoire, dans le but de rechercher des éléments historiques, préhistoriques, doivent faire l'objet d'une autorisation, et d'une autorisation préfectorale. Et là, l'autorisation, elle sera donnée si vous avez toutes les qualités pour justement sonder, comprendre le sol.
Donc, par exemple, je n'ai pas le droit de fouiller dans mon jardin.
Alors, non. Depuis 1941, vous n'avez pas le droit. dans l'optique de rechercher des objets.
Mais imaginons, je fouille en cachant mon intention et je tombe.
Oui, mais alors,
gros, je fais du jardinage et puis je me dis peut-être je vais tomber sur quelque chose, mais c'était pas vraiment mon but de tomber sur quelque chose. Et là, je déterre un objet et je le garde pour moi.
Alors c'est compliqué. C'est qu'en fait, il n'y a pas que la loi de 1941, il y a aussi la loi de 2016.
Ah.
Et vous voyez, donc, de 2016. Je suis pas en train de vous dire la loi de 1916.
Non, là, c'est très récent.
C'est-à-dire, c'est hier. Donc, jusqu'en 2016, si vous trouviez effectivement un objet de façon fortuite, vous êtes en train de jardiner, vous trouvez l'objet dans votre jardin.
Oui.
Il est à vous.
Oui.
Vous faites la même chose, vous jardinez dans le jardin de votre voisin. Eh bien là, il y a un partage entre vous, l'inventeur, et le propriétaire qui est voisin. Seulement si vous avez demandé l'autorisation, effectivement, de jardiner.
Évidemment.
Alors, depuis 2016, on dit, en fait, le sous-sol est par nature appartient à l'État. Et donc, vous êtes tenu, vous êtes tenu de restituer l'objet si on reconnaît, en fait, une valeur historique à l'objet. C'est-à-dire que le sous-sol ne vous appartient plus, non pas parce que l'État serait encore là pour vous embêter, mais un objet est porteur d'une histoire. Hein, et donc, vous ne pouvez plus le détenir simplement à votre profit et encore moins pour le vendre. Parce qu'en fait, du coup, l'objet...
C'est ça le vrai problème.
Perdu. Voilà.
Qu'est-ce qui est le plus problématique finalement ? Le fait de le garder chez soi ou le fait de vouloir en faire un usage, voire le vendre ?
En fait, les deux. C'est-à-dire que l'archéologue, lui, se sert des objets pour raconter une histoire. Donc, si vous privez l'archéologue, effectivement, des objets, dans leur contexte, eh bien, en fait, vous privez l'archéologue de raconter cette histoire. Et c'est pour ça que c'est la grande distinction entre un objet dans son contexte et un objet hors contexte. Les fouilles clandestines, vont déterrer l'objet à un endroit et vont supprimer tous les contextes qui permettent de restituer un objet. Un objet, quel qu'il soit, va me renseigner, bien évidemment, sur la nature de l'objet. Sur, est-ce que c'est un objet qui a été confectionné localement ou est-ce qu'il a été importé, à quelle culture matérielle il appartient, et puis en fonction de la nature, ça va aussi me renseigner sur la fonction de l'endroit dans lequel je suis en train de fouiller,
du site.
Du petit espace, mais aussi du grand espace, parce que finalement, si je trouve un objet peut-être du 5e siècle avant notre ère, c'est pas simplement l'objet qui est datable, c'est toute la couche dans laquelle se trouve. Donc ça peut être un hectare, enfin peut-être un peu moins quand même, mais ça peut être finalement des dizaines de mètres carrés, vous voyez. Et c'est pour ça qu'un objet pris isolément perd en fait, on réduit l'objet à sa seule valeur financière. C'est ça en fait qu'on est en train de combattre, et principalement effectivement les détecteurs de métaux, hein, qui réduisent en fait l'objet à leur valeur financière. Alors, ils ont beau dire effectivement qu'ils sont passionnés par l'histoire, mais moi je suis passionné par l'histoire.
Vous faites pas de fouilles dans votre jardin ?
Je ne fais pas de fouilles dans mon jardin, et si je devais en faire, je demanderais l'autorisation. Voilà. Bon, donc moi je dis voilà, rejoignez plutôt ceux dont c'est le métier. Je pense que ça ne viendrait pas à l'idée d'aller chez un boulanger pour vous faire soigner les dents et inversement. Ouais, chacun dispose d'une certaine pertinence à fouiller et à faire parler. Hein. Le sol est un livre d'histoire.
Mais ça, c'est cette transformation, cette prise de conscience, Vincent Michel, elle ne peut pas s'accompagner uniquement d'une loi comme celle ou de lois, parce qu'il y en a plusieurs en 2016. Il faut vraiment une transformation des mentalités, mais qui ne concerne pas que les gens du monde de l'art. Marchands, collectionneurs, peut-être aussi des trafiquants. Ça concerne aussi, en fait, n'importe quelle personne qui est en rapport avec un sol qui pourrait contenir des objets. C'est-à-dire n'importe qui détient, en fait, un terrain pourrait être confronté à cette question. Donc il y a une transformation plus de mentalité.
Oui, il y a une transformation de mentalité et partout. C'est vrai que, en fait, la prise de conscience, elle est quand même récente.
Il y a eu une prise de conscience d'ailleurs ?
En fait, c'est très simple. En fait, on parle pas d'extraterrestres, on parle pas effectivement d'aliens, on parle d'hommes, hein, avec un grand H, hein, donc de gens qui vivent, qui meurent, bon, etc., etc. Et donc, si justement ces hommes ne voient pas leur intérêt menacé, on ne bouge pas. Voilà. Souvenez-vous, malheureusement, en Éthiopie, lors de l'époque de la famine, on disait, malheureusement, ils n'ont pas de pétrole. Entre parenthèses, s'il y avait eu du pétrole, effectivement, on serait intervenu. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la première prise de conscience des atteintes au patrimoine, c'est mars 2001. Mars 2001, c'est les talibans, hein, qui pulvérisent, donc les bouddhas de Bamiyan. Alors là, effectivement, c'est un choc épouvantable. On a tous horrifié par ces images à la télévision. Mais vous voyez, j'ai envie de dire, c'est les talibans. Bon, on ne savait pas trop qui c'était. C'est l'Afghanistan. Est-ce qu'on sait vraiment où se trouve effectivement ce pays ? Donc voilà. Donc on a tous pleuré, puis le lendemain, on a tous oublié. Après,
vous voulez parler de l'opinion publique là ?
De l'opinion publique. Alors, la communauté scientifique, bien évidemment, c'est amplement même mobilisé. Mais l'autre communauté, la population un peu moins, et a raison d'ailleurs. Le deuxième acte, c'est les printemps arabes.
Donc là, 10 ans plus tard.
Voilà, 10 ans plus tard, 2011. Donc là, en fait, les conflits se rapprochent finalement de l'Occident. C'est le bassin méditerranéen, hein, c'est la Tunisie, c'est la Libye, c'est l'Égypte, c'est la Syrie. Enfin, c'est voilà. Et on remarque que en période de conflit, eh bien, souvent le patrimoine pâlit en fait de ces périodes parce que les États sont trop occupés à autre chose qu'à protéger leur patrimoine. Donc il y a une sorte de vulnérabilité. Et puis, c'est vrai que dans ces deux années 2011, on est aussi à l'époque d'Internet, on est aussi à l'époque de la mondialisation, on a une époque où on prend aussi conscience que, un objet, c'est peut-être beau, c'est peut-être moche, c'est une utilité, on peut le remployer, mais surtout, on peut le vendre. Mmh. Et c'est-à-dire que derrière un objet peut se cacher effectivement une valeur financière. Et 2011, c'est sûr que c'est il y a une sorte de paupérisation. On a augmenté malheureusement justement la pauvreté de certaines personnes. Et ces personnes, prenant conscience qu'un objet avait de la valeur et qu'il s'agissait simplement de se baisser pour avoir effectivement cet objet et de pouvoir le vendre, on a eu justement une sorte d'explosion du trafic. Et puis, alors j'ai envie de dire, ok, très bien, c'est dans ces pays-là, dans ces pays sources. Et puis le troisième acte, c'est quand même, et c'est là où effectivement on a commencé à bouger, c'est vraiment la création de l'État islamique. C'est vraiment Daesh, dans ces années 2014-2015, où on avait à la fois ces images horribles, effectivement, de ces gens qui pulvérisaient justement ces temples, ces sites archéologiques de Bel, d'Atra, de ceux qui, avec leur masse, c'est pas un marteau, avec des masses, donc énormes, et cassaient justement, patrimoine culturel. Et donc c'est la même qui, au nom justement d'une mauvaise interprétation justement de la loi coranique, on détruit le patrimoine, mais aussi sachant qu'ils ont pris aussi conscience qu'il fallait aussi financer leurs actions terroristes, se sont servis du sous-sol pour justement extraire cette manne financière. Et ça, il faut toujours se méfier des preuves. Bon, mais là, on a comme des preuves. Effectivement, c'est un raid américain en 2014. Dans la région de Deir ez-Zor, donc on est vraiment sur la partie orientale de la Syrie, au bord de l'Euphrate. Et à l'occasion de ce raid, on a trouvé la cachette d'un certain Abou Sayyaf. Et dans cette cachette, on a tout trouvé. On a trouvé en fait l'organisation financière de Daesh, que ça soit justement le trafic de stupes, le trafic d'armes, le trafic de pétrole. D'ailleurs, le trafic de pétrole, c'est-à-dire des gisements, rentrait également le trafic des biens culturels, parce que le pétrole et les antiquités sont aussi dans le sous-sol. Et puis, on a trouvé des bordereaux, donc c'est-à-dire de ce trafic. Donc là, et à partir du moment où ces gens trafiquent des antiquités et que ils vont se servir pour réaliser des attentats chez nous, là on bouge. Et les plus grands.
Vous disiez au début, en fait, tant que ça ne nous concerne pas, on fait rien.
Tout à fait.
Et quand on est impacté.
C'est le Bataclan. Ces actes innominables, qui nous ont touchés. Et on s'aperçoit, alors même si c'est encore un peu en gestation, mais les grandes lois, la grande loi française, les deux grandes lois en juin et en juillet 2016. Sont sortis aussi dans cet état d'esprit. Les grandes résolutions des Nations Unies, où, là, justement, qui sont en force de loi, c'est pas une convention, où là, il faut une ratification, c'est-à-dire que là, il y a une obligation, une force coercitive, justement, donc, dans les résolutions, où on a associé, effectivement, le financement du terrorisme avec le trafic des biens culturels. Et c'est vrai que cette prise de conscience, alors que ça soit du côté des forces d'enquête, des gendarmes, des policiers, mais aussi donc des douaniers, et encore plus de la justice, la prise de conscience, elle est là. C'est-à-dire que il y a cette vulnérabilité parce que derrière une antiquité peut se cacher, un détectoriste, peut se cacher du crime organisé. Mais peut aussi se cacher des terroristes. Et donc c'est tout ça qu'il faut traiter, sachant que derrière un objet peut se trouver l'une des catégories.
Donc
il n'y a pas d'une spécialité, en fait.
Mais donc, c'est moins par amour ou par intérêt pour le patrimoine culturel que pour prévenir, en fait, d'une situation géopolitique désastreuse.
Là, il n'y a aucun amour. C'est simplement la recherche d'argent. Qu'on trafique, effectivement, des médicaments, des êtres humains, des téléphones ou des biens culturels, le seul moteur, c'est l'argent. Alors, quand les trafiquants...
Ce que je veux dire, c'est que même dans la réaction qu'on a eue avec ces lois, c'était pour lutter contre le terrorisme, lié effectivement à un trafic de biens culturels, mais plus pour lutter contre ce terrorisme que par préservation, en fait, d'un patrimoine culturel mondial.
Oui, je comprends. Oui, tout à fait. le prétexte, effectivement, a été celui-ci. L'idée, c'est
d'abord le terrorisme, suivi l'intérêt,
voilà,
pour le patrimoine.
Et donc tout ce qui concourt en fait au financement du terrorisme. Hein, c'est pour c'est ça, finalement, le GAFI, que TRACFIN, que le Parquet National Financier, voilà, toutes ces structures qui sont à la recherche justement, eh bien, de financement occulte, de blanchiment de capitaux, bah, se sont intéressés à cette discipline, à cette thématique. Alors, qui est un peu compliqué, parce qu'on parle de, voilà, d'objets d'art, on parle justement...
Voilà, qu'est-ce que ça désigne,
oui,
le patrimoine culturel.
C'est quelque chose d'un peu feutré, non, parce que vous allez effectivement sur n'importe quel site internet, eh bien, voilà, vous mesurez. Alors, c'est vrai que c'est une chose aussi très importante dans cette prise de conscience. On a parlé effectivement du terrorisme, on a parlé du crime organisé, on a surtout parlé effectivement d'argent, parce que, là aussi, moi je ne suis pas un théoricien de la lutte contre le trafic, comme archéologue, voilà, les pieds bien campés sur le sol, c'est que je cherche des moteurs, je cherche des logiques.
Oui. Hein,
et la logique, elle est simple, en fait. C'est l'argent. À partir du moment où les gens ont conscience que le marché de l'art pèse 63,7 milliards de dollars par an. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent à se faire. C'est tout. Voilà. Et donc, vous avez compris, en fait. Donc, les gens, à partir du moment où, en fait...
Que ce soit un petit délinquant individuellement ou un groupe organisé... Il y a de l'argent à se faire.
Il y a de l'argent à se faire. Mmh. Donc le moteur, effectivement, donc c'est l'argent. Et puis, bah, comme c'est une infraction qui est encore pas très connue, comme donc il y a une sorte aussi d'impunité, en fait. Hein. Mmh. Et donc forcément, vous savez, le délinquant, lui, bah, le trafiquant, il a aussi sa logique. On essaie de comprendre sa logique. Il va aller chercher les lieux de richesse. Hein, pour refourguer, si je puis dire, effectivement, ces objets. Alors, ces lieux de richesse, bah oui, c'était l'Europe avant, c'était les États-Unis avant, mais on voit bien que ces marchés, bah, bougent, hein, vers, effectivement, voilà, vers l'Asie, vers les pays du Golfe, voilà, bon. Donc, le déplacement du marché de l'art, il se fait aussi en fonction du déplacement des richesses. Mais également, on s'aperçoit qu'à la source de ce trafic, bah, il y a le pillage. Et là, les zones qui sont en proie au pillage, bah, ce sont des zones de guerre.
Où la situation est instable.
Où la situation est instable.
Des situations,
là, on voit.
De guerre civile, où il y a des accidents aussi, ou
tout à fait.
Naturels, alors, des catastrophes naturelles.
Exactement.
Pandémie.
Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a vraiment, finalement, Haïti, c'est effectivement les problèmes climatiques. Alors, dans les régions dans lesquelles je travaille, exclusivement en Orient, voilà, c'est les pays sources, justement, c'est la Mésopotamie. Mais vous imaginez, enfin, les Mésopotamies, ça y est, on ferme les yeux et on a des pans entiers de notre histoire. Mmh. C'est l'Égypte. Donc, ce sont ces zones sources qui, vivant une certaine instabilité, eh bien, vont profiter, en fait, aux pilleurs. Et puis, dernier élément qui est important, c'est que les trafiquants vont aller là où ils risquent le moins. Mmh. Et c'est-à-dire là où la loi, en fait, peut-être existe, mais n'est pas appliquée. Hein, où il y a peu de gens derrière, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des ventres mous, même en Europe, hein, où les trafiquants vont plutôt aller dans tel pays et moins dans d'autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver l'articulation, la logique entre un pays source, hein, source justement de ces richesses archéologiques, les pays intermédiaires, ou les pays de transit, hein, par lesquels justement ils vont pouvoir être blanchis, et puis bah, les pays destinataires, c'est-à-dire les pays de marché. Et la France est un pays de marché.
Bonjour. En quoi puis-je vous être utile ?
Oh, je regardais ces objets anciens. On raconte que vous êtes la spécialiste ?
Ah, oui, on peut dire ça.
Ils sont magnifiques. Celui-là, il vient d'où ?
De la tribu Ashantifo, l'actuel Ghana. 19e siècle.
Ah ouais ? Et je peux savoir d'où il vient, celui-là ?
Celui-là vient d'une tribu Edo du Bénin, 16e siècle.
Et maintenant, parlez-moi de celui-là.
Oh, c'est aussi du Bénin, 17e siècle. Le peuple Fula, il me semble.
Non.
Je vous demande pardon.
Des soldats anglais l'ont bien sorti du Bénin. Mais ça vient du Wakanda. Et c'est du vibranium. C'est pas la peine de vous exciter, je vais vous le prendre.
Ces objets ne sont pas à vendre.
À votre avis, comment vos ancêtres les ont eus ? Vous croyez qu'ils les ont payés ? Ou vous croyez qu'ils les ont pris, comme ils ont piqué tout le reste ?
Monsieur, je vais devoir vous demander de partir.
Vos agents de sécurité me quittent pas des yeux depuis que je suis entré. Mais vous savez même pas ce qu'on a mis dans votre verre.
Tu vas être riche, mon gars.
Ouais, mais faut que tu le vendes en vitesse.
Il est déjà vendu. Hey, tu vas pas me dire que c'est du vibranium, ton truc ?
Non, ça me plaît, c'est tout.
Le film Black Panther de Ryan Coogler 2018, où il est question d'appropriation d'œuvres culturelles dans un musée, et là de restitution un petit peu forcée dans cet extrait qu'on vient d'entendre, Vincent Michel. Ce qui me permet de vous poser cette question: qu'est-ce qu'on voit dans nos musées? Comment faire la différence entre une œuvre d'art légale, une œuvre d'art volée et une œuvre d'art pillée?
Oh là là. Alors, légal, alors tout est légal. Je tiens à rassurer, effectivement. Tout est légal, oui.
Paradoxalement.
Oui. Alors, c'est en fait la légalité.
Comment on peut avoir une œuvre d'art pillée dans un musée et en même temps qu'elle soit légale?
Alors voilà, c'est toute la grande difficulté, c'est que où est-ce qu'on met le curseur? Alors, un objet qui est pris dans un pays il y a un siècle, qui ne possédait pas de loi, ce n'est pas un vol. Le même pays, un siècle après, qui dispose d'une loi, le même geste devient un vol. Donc c'est toujours la loi, en fait. C'est pour ça que dans nos musées, il n'y a que des objets légaux, si je peux dire. Mais l'origine, là, peut aussi nous interpeller. C'est-à-dire, est-ce que le mode d'acquisition, qu'on le sait légal, concerne des objets qui, à la base, ont été volés, ou des objets qui ont été pillés. Et là, c'est la grande difficulté. Sachant que dans nos musées, le système d'acquisition pas suffisamment, parce qu'on voit bien effectivement que les affaires récentes, mais que voilà, il y a quand même une exigence justement quand même de vérifier cette histoire, cette provenance. Alors qu'on ait des objets pillés, ça c'est tout le travail qu'on doit faire maintenant. L'idée c'est de restituer justement, c'est pour ça que c'est un peu nos batailles, c'est-à-dire de rendre à son propriétaire d'origine justement, eh bien, des objets qui ont été acquis d'une manière illicite. Donc vol, pillage, ou bien des objets saisis. Alors dans le film que vous faites allusion, c'est-à-dire quelle était la situation du pays au moment où un tiers s'est approprié justement l'objet. Est-ce que c'est dans le cadre justement d'un échange libre et consenti? Et même si on est dans une période effroyable de colonisation, voilà, ou est-ce qu'on retient simplement la période, c'est-à-dire que toutes les transactions de cette période sont systématiquement, déclarées comme nulles et non avenues. Alors c'est ça, en fait, toute la difficulté de placer où est-ce qu'on place le critère. Est-ce qu'on rend tout? Est-ce que les 70 000 objets du Quai Branly doivent être rendus?
Sachant qu'une partie a été d'ailleurs restituée.
Oui, alors il y a eu 26 objets qui ont été restitués au Bénin, parce qu'on a reconnu que au moment justement, de sa prise. Il y a eu une sorte de prise de guerre, en fait, il s'agissait de bon. Mais il faut faire attention. Les restitutions, derrière une restitution peut se cacher beaucoup de choses. Pour quel motif on veut restituer? Est-ce que c'est diplomatique? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est économique? Voilà. Donc il s'agit aussi de pas.
Alors, pourquoi il y aurait des bonnes et des mauvaises raisons pour restituer des objets?
On va pas restituer tout le patrimoine mésopotamien, irakien à l'Irak, ou demander justement au musée italien de nous rendre effectivement les objets français, vous voyez.
Mais c'est une vraie question. Pourquoi?
Oui, c'est une vraie question.
Parce que la question de restitution, puisqu'on est là-dessus, Vincent Michel, c'est pourquoi finalement les pays n'exposeraient pas eux-mêmes les œuvres qui ont été produites?
C'est une bonne question.
Pourquoi il y aurait des collections de pays différents dans des pays différents?
Alors c'est aussi ça tient aussi à l'histoire. Vous voyez, on a commencé pour l'Orient. Vous savez, l'Orient à l'époque ottomane, c'était un peu cette terra incognita où on n'osait pas trop aller. C'était à l'époque de l'Empire ottoman. Et c'est vraiment la redécouverte avec les grandes campagnes napoléoniennes de 1798-1799 qu'on redécouvre effectivement l'Orient. Et on se lance justement dans cette quête effrénée. Alors aussi, on fait un peu d'archéologie biblique, parce qu'on cherche à prouver l'authenticité, la singularité, du texte biblique. Mais voilà, on commence à s'intéresser à l'Orient. Et puis, bien évidemment, vous avez raison, les moteurs aussi de ces expéditions, que ce soit le Louvre, que ce soit le British Museum, que ce soit Pellemille Botta ou Henri Layard, c'était aussi quand même
de s'approprier, de s'enrichir.
Alors, de s'approprier, mais de s'enrichir culturellement. temps, c'est-à-dire de remplir, entre D'accord. guillemets, nos musées. Mais il ne s'agit pas de vol. Parce que à l'époque,
c'est ça qui est difficilement
oui, parce que
audible.
À l'époque, c'était consenti. À l'époque, c'était dans le cadre de conventions, d'accords, avec justement la belle porte, avec justement voilà Constantinople.
Et est-ce qu'un accord peut être rendu caduque ou annulé de manière rétroactive?
Alors, c'est là où justement il y a ce qu'on appelle les restitutions politiques. Ouais. Là aussi, pourquoi, alors, même si les frises du Parthénon, depuis les années 50, avec Mélina Coury, donc l'ancienne ministre de la Culture, qui a demandé effectivement, officiellement que les frises du Parthénon soient rendues.
Donc, soient rendues en Grèce, alors qu'ils sont exposés à Londres, au British
Exactement.
Museum.
Et que depuis 2009, Athènes dispose effectivement du musée de l'Acropole qui permet de contrecarrer l'argument comme quoi vous n'êtes pas en capacité de pouvoir les accueillir. Bon, ça, ok. Bon. Mais et chez nous, c'est le discours du président Emmanuel Macron de 2017 à Ouagadougou, qui s'engage justement à rendre. Donc là, à partir de là, il y a le rapport Sarre-Savoie. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut rendre? Quels sont les critères? Sachant qu'on a quand même un problème chez nous. C'est que un objet qui rentre dans les collections, c'est un objet qui est inaliénable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus justement les faire sortir, on ne peut pas les vendre, bien évidemment, on ne peut pas en disposer librement. Et donc, on est obligé, pour faire sortir justement ces objets de cette inaliénabilité étatique, on est obligé d'avoir une loi. Une loi, justement, qui sera votée au Parlement pour faire sortir cet objet. Donc, c'est aussi un processus très long. Alors là, on est vraiment au cœur de l'actualité, parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut une loi à chaque fois qu'on veut rendre un objet? Ou est-ce qu'on peut pas avoir une sorte de loi cadre qui justement encadre les cas de restitution d'objets spoliés? Donc la spoliation, c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale, des objets qui ont été pillés.
Donc et là, puis... c'est le cadre d'objets dont la trace a été perdue, prise, sans aucun cadre.
Voilà, dont l'origine, la traçabilité était quand même assez floue. Et puis, la troisième loi cadre, concerne les restes humains.
D'accord.
Effectivement, on a aussi des restes humains. L'ancien musée de Nantes, effectivement, on avait des restes humains de Maori, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est donc là, il y a cette réflexion qui a été confiée effectivement au Sénat, qui a été confiée effectivement aussi à Jean-Luc Martinez. Donc voilà. Donc on espère dans les prochaines semaines, en avoir un peu plus justement concernant ces restitutions.
Quelle est la différence entre une œuvre d'art pillée et volée? Parce que vous parlez de spoliée, pillée, de restes humains, mais on parle aussi beaucoup d'œuvres d'art volées. Quelle est la différence entre les deux?
Alors, c'est une différence qui est capitale. Pourquoi? Parce qu'en fait, un objet volé, c'est un objet qui a un propriétaire connu. L'œuvre est connue, l'œuvre est inventoriée, elle est listée, elle est photographiée, enfin voilà. Bon, voilà. Et donc c'est un voleur qui vous l'emprunte, si je puis dire, et dont vous savez l'existence, vous connaissez l'existence, et donc ça sera entre guillemets plus facile de la retrouver. Même si, bien évidemment, le trafiquant va tout faire pour vous empêcher, pour brouiller les pistes, soit en maquillant l'objet, soit en maquillant, encore une fois, les documents qui accompagnent l'objet. Les objets pillés, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est un objet orphelin. C'est un objet sans histoire. C'est un objet dont on ignorait, en fait, même l'existence, qui va être sorti de terre à l'occasion, justement, de fous clandestines. Et bien évidemment, vous n'allez pas mettre sur Internet « vend objet pillé », parce que ça, vous ne pourriez pas. Donc en fait, c'est une page blanche, vous voyez, une page qui est écrite. Une page écrite sur les deux côtés, c'est un objet volé.
Oui.
Donc c'est difficile de raconter autre chose que ce qui est raconté sur les deux pages. Un objet pillé, c'est une page blanche, où le trafiquant va pouvoir inventer
mettre une date, par exemple.
Mettre une date, raconter une histoire, mélangeant, alors là aussi, le trafiquant est doué de raison, malheureusement, il va mélanger des éléments, des noms qui ont existé, avec des histoires qui sont plausibles. Et surtout, le trafiquant part du principe que vous n'irez pas vérifier. Le trafiquant joue sur la crédulité, en fait. Et cette crédulité a fonctionné, parce que vous parliez justement d'objets. Est-ce qu'il y a des objets pillés ou volés dans les collections muséales? Bien sûr, sûrement, mais non pas parce que effectivement les conservateurs sont complices effectivement de ce trafic, c'est qu'ils ont été abusés. Et c'est pour ça que c'est important de parler de cette vulnérabilité. Moi, pour justement travailler aussi à l'Institut national du patrimoine, je vois aussi d'où sortent les conservateurs. Voilà, enfin, c'est ça qu'on leur apprend pas, et c'est normal, à vérifier la légalité d'un document. Est-ce qu'il n'a pas été falsifié? Enfin, ce sont pas des flics. Ce sont pas des gens qui sont en capacité de vérifier si c'est un vrai ou un faux passeport.
Mais par exemple, pour les tableaux, on vérifie. Par exemple, pour les tableaux de grands maîtres, on vérifie quand même la signature. Ou c'est pourquoi on fait pas la même chose pour des objets, des artefacts antiques?
Ah, parce que vous croyez qu'il y a jamais de débat sur l'authentification d'un objet, d'un tableau de Rembrandt, ou même d'un Salvator Mundi, justement, de Léonard de Vinci? Ah, mais vous savez, le trafiquant, il a pas de limite. C'est encore une fois la petite cuillère en bois ou en ivoire, voilà. Jusqu'au chef-d'œuvre.
Oui.
Et les deux sont falsifiables.
Mais le fait qu'il y ait des débats d'authenticité autour d'un chef-d'œuvre, mais moins peut-être sur une petite cuillère en bois, c'est parce qu'aussi, en fait, il y a un problème de formation ou de sensibilisation ou même d'éducation autour de ce qu'est un artefact antique important et qui relève du patrimoine culturel.
Oui, oui, mais enfin, on l'aura pas appris. Alors c'est bon, moi, c'est ce que je fais, mais c'est rassant aussi. Oui, enfin, durant toute ma carrière université, on m'a jamais enseigné les atteintes au patrimoine, cette notion de pillage, de vol. Enfin bon, c'est quelque chose de très évanescent. Quand j'ai fait mon droit, pareil. Enfin, le droit du patrimoine, c'est quelque chose qu'on n'enseignait pas. En tout cas. À mon époque, en licence. Donc tout ça est venu un peu quand même après. Mais moi, maintenant, enfin depuis 6 à 8 ans, systématiquement dans tous mes cours, je montre toujours un objet volé ou un objet pillé, ou une catégorie d'objets qui est menacée par le pillage. Voilà. C'est commence par là, parce que mes étudiants de première, deuxième et troisième année, ce sont ceux qui seront, je l'espère, effectivement, voilà.
En train de faire des fouilles,
mais surtout qu'on va retrouver chez les antiquaires, chez les galeristes, chez les commissaires-priseurs. Donc au moins, ils sauront. Hein, ils seront sensibilisés au fait que derrière, en fait, une antiquité peut se cacher, en fait, une infraction. Donc ne soyons pas complices, en fait. Rentrons dans cette exigence, non pas de cette crédulité, mais dans cette exigence de vérifier. Alors, effectivement, ça prend du temps. Ça nécessite des moyens. Alors c'est pour ça que le marché de l'art, qui est conscient quand même de ça, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, bon, oh, vous exagérez, il n'y a pas tout ce trafic, si, il n'y a pas de lien avéré avec le terrorisme, si, il n'y a pas de lien avéré avec le crime organisé, si. Parce qu'on parle d'argent, on ne parle pas, encore une fois, on tiendrait le même discours de vendre d'autres disciplines. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment cette sensibilisation pour que les gens puissent plus dire « je ne savais pas ». Voilà. Et ça, c'est effectivement comme enseignant, c'est comme mon but. Hein.
Mon trésor à moi ne s'enferme pas, il ne se cache pas dans un coffret de bois. Mon trésor à moi ne se trouve pas tout au fond des mers ou sous le sable du désert. Brille au grand jour comme un grand amour. Il a plus d'éclat que les joyaux d'un roi. Mon trésor à moi ne se compte pas. Il n'a pas de prix sauf celui de ma vie. Des trésors, il y en a près de soi, des richesses qu'on ne voit même pas. Mais moi le mien, je viens de le trouver, je n'aurai plus besoin d'en rêver. Mon trésor à moi ne s'enferme pas, il ne se cache pas dans un coffret de bois. Il est fait de toi, il est dans ta voix, il est dans ma joie de me trouver dans tes bras. Rien que de voir tes yeux.
trop tard. T'arrives à quelle heure?
5 heures.
Je viens depuis 4 heures. Et Bibi a tout raflé, mon pote. Eh oui, parce que j'ai une jugeote. Tu veux que je te dise? Quand on fait de la prospection professionnelle, j'entends, il faut de la méthode. De la méthode. Depuis que tu viens, t'as pas remarqué qu'il y a personne qui pose sa serviette là où tu cherches? T'es rébronzé près d'une poubelle, toi? Non. Je vais te donner un truc, mon pote. Tu vois, de là à là, il y a une ligne imaginaire. C'est la ligne du vendeur de beignets, le vendeur ambulant. Eh oui. Alors les gens, tu vois, ils se déplacent et ils vont jusqu'au vendeur. Ils achètent le petit beignet et ils payent. Et quand ils payent, parfois, ils perdent des pièces. 50 pièces de 10 centimes. Je te compte pas les pièces de vente. Parce que j'ai de la méthode. De la méthode.
Ah. Comment t'as fait?
De la méthode. De la méthode. C'est le seul endroit où les gonzesses peuvent venir se bronzer à poil sans être vues. Alors, la Cécile, c'est comme je la voyais. Elle arrive, elle pose sa petite serviette, elle s'allonge. Un quart d'heure après, elle enlève sa gourmette pour ne pas laisser de traces. Elle papote, elle lit son magazine de gonzesses, et elle repart, et elle l'oublie. De la méthode.
Un extrait du film Mammouth de Gustave Kerven et Benoît Delépine qui date de 2010. On y entend Benoît Poulvorde et Gérard Depardieu qui parlent de leur usage différent d'un détecteur de métaux pour s'enrichir, enfin pour trouver en fait des pièces d'argent, pour trouver des gourmettes, des bijoux. Mais vous, les détecteurs de métaux, Vincent Michel, on peut dire que c'est un peu votre ennemi puisqu'en fait on y trouve, ça rentre parfaitement dans la catégorie que vous avez décrite au début de l'émission, tout ce qui est trouvé, fouillé dans les sols ne nous appartient pas et ça devient un trafic illégal.
Oui, c'est clair, c'est pas un ennemi, hein, parce que j'ai pas d'ennemi. Et je comprends pas, en fait. Je comprends pas, parce que généralement, ils se défendent en disant, oui, on vous aide, venez fouiller avec nous.
Ben là, dans mais le cas des nous. Deux protagonistes, c'est une manière aussi de vivre, de trouver un petit peu d'argent. Et on pourrait miser sur le fait que les trois quarts des objets pillés, viennent, en fait, d'individus qui cherchent à s'en sortir, plus qu'à vouloir tromper ou à alimenter un trafic d'art. C'est plus de l'ignorance.
Oui, à côté de ça, si vous voulez une voiture pour vous nourrir, vous quand même, vous voulez une voiture.
Oui.
Bon, voilà. Si vous voulez une baguette dans une boulangerie, vous voulez. Parce qu'à l'origine, il y a comme une infraction. Voilà. Alors que, il y a des circonstances atténuantes. Ça, je veux bien. Mais, c'est vrai que, quand même, le principal, fléau, justement, en tout cas, dommage porté, justement, au patrimoine, c'est quand même l'usage, justement, des détecteurs de métaux sur des sites archéologiques. Et cela, sans aucune, en dehors, en fait, d'opérations scientifiques et surtout autorisé. Moi, j'ai quantité d'amis archéologues qui, effectivement, non pas fouillent avec des détecteurs de métaux, mais vérifient, hein, notamment à l'occasion d'archéologie préventive. Vous voyez, vous imaginez, lorsqu'on creuse, lorsqu'on construit, en fait, une voie à grande vitesse, on fait des sondages, on peut pas tout fouiller, on peut pas tout tamiser, donc on va justement passer le détecteur de métaux. Mais ça, c'est fait par des archéologues l'autorisation.
Il doit y avoir un encadrement.
Il y a un encadrement. Et la loi, alors ça c'est la loi effectivement de 1989, qui dit que nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire. Et encore une fois, sans avoir obtenu l'autorisation administrative. Alors vous imaginez, là, alors c'est l'association APA, hein, Halte au pillage du patrimoine archéologique et historique, qui estime à 520 000 objets pillés par an. Vous imaginez 520 000 ? C'est-à-dire c'est 520 000 occasions perdues de raconter une histoire. C'est ça. C'est depuis 1991, 10 millions, en fait, d'objets qui ont disparu. Ça fait 30 ans que dans la région PACA, on n'a pas découvert un trésor monétaire. En fait, c'est ça la réalité.
Hein. Parce que justement, il y a...
Parce que des gens sont venus avant, se sont emparés de cet objet, l'ont totalement décontextualisé. Non, alors que moi, un objet a une valeur historique, patrimoniale, religieuse, sociale, identitaire, en fait, tout ce que vous voulez, il y a aussi une valeur légale. Mais chez les détecteuristes, il n'y a qu'une seule valeur, c'est-à-dire la valeur marchande. Ce ne sont que des possesseurs. Mmh. Alors que nous, nous on possède pas déjà, et surtout on fait quand même preuve, en toute modestie, quand même d'une certaine érudition. Mmh. Alors c'est toujours très difficile, vous voyez, d'évaluer l'importance et l'impact effectivement de ces atteintes au patrimoine archéologique. Mais encore une fois, Ce qui est important, c'est de prendre conscience que c'est l'effet de masse. En fait, c'est la multiplication de ces petites atteintes. Vous voyez, c'est 10 objets chaque semaine. Mais fois 2, s'ils sont en 2, fois 10, s'ils sont 10. Et il y a même des rallyes qui sont organisés, où là, ce sont des milliers de détectoristes qui vont, munis de leurs détecteurs de métaux, eh bien, voilà.
Mais là, on peut les repérer, parce que ça doit être, si c'est des rallyes, il y a un grand nombre de personnes qui se sont rassemblées. Quand c'est deux personnes, comme là, dans l'extrait, c'est plus difficile, en fait, de les arrêter.
Oui, mais bizarrement, vous n'allez pas recevoir beaucoup de publicité, voyez, hein,
oui.
C'est un peu comme les rêves. Voilà, au dernier moment, paf, on connaît le lieu où, que l'on va prospecter. Et là, enfin, excusez-moi, mais ceux qui disent qu'ils sont là pour dépolluer les sites, voilà, il y a quand même d'autres manières de dépolluer. Et est-ce qu'on a besoin effectivement de dépolluer? Non, il y a vraiment, et je pense que c'est ça aussi, hein, il faut arrêter de tourner autour du pot. Il y a quand même la quête du trésor. Ce sont quand même des chasseurs de trésors. Et ça.
Un peu comme Indiana Jones.
Mais un peu comme Indiana Jones. Et en plus, c'est d'autant plus facile que un détecteur de métaux, ça vaut entre 95 euros et 32 000 euros. Là, effectivement, sur le site du National Geographic, sur le site de la Redoute, on pouvait, en Noël, pour Noël, effectivement, 2022, acheter des détecteurs de métaux pour les enfants. Vous imaginez? C'est-à-dire que c'est vraiment un appel à l'infraction, un appel au crime. Hein. Mmh. Bon. Et donc, à 32 000 euros, on vous dire que là, vous pouvez choisir. Alors moi, je ne veux que ça bipe s'il y a de l'or ou s'il y a de l'argent. Voilà. C'est-à-dire que la technologie, est là. C'est-à-dire qu'on peut acheter. On peut acheter d'une façon légale justement les détecteurs de métaux, mais il y a un rappel à la loi en tout petit, hein, et c'est effectivement la loi de 89, c'est-à-dire que l'utilisation est encadrée. Mais là, effectivement, on fait fi. Donc c'est pas une guerre, c'est simplement leur dire que, voyez, ces objets, j'ai besoin de le découvrir dans son contexte d'enfouissement, pour qu'il puisse me parler. Si vous passez à travers toutes les couches. En fait, toutes les strates, hein, d'occupation, de destruction, d'abandon, eh bien, en fait, vous détruisez d'une façon définitive. C'est ça aussi.
C'est
qu'un objet pillé, c'est un objet qui est définitivement perdu.
Il est perdu, c'est-à-dire que par exemple, si on retrouve une cuillère en bois qui a été pillée et que vous reconnaissez, vous, Vincent Michel, qu'il s'agit d'un objet, d'un artefact antique, pour vous, il n'aura plus aucun intérêt parce qu'il est trouvé hors du sol, en dehors de son contexte?
Oui, enfin, c'est-à-dire que je pourrais faire parler l'objet, mais je ne pourrais pas justement recontextualiser, c'est-à-dire placer l'objet dans le contexte d'une maison, d'un lieu d'artisanat, d'un temple, voilà, il sera réduit...
Orphelin, comme vous
orphelin,
dites.
Il sera réduit à sa pauvre identité. Alors, parfois, heureusement, il y a des objets qui parlent d'eux-mêmes. Hein, malheureusement, ils parleront d'eux-mêmes qu'à eux-mêmes. Hein, alors qu'un objet dans un contexte, bah voilà, c'est tout ça, en fait.
Mais paradoxalement, par exemple, les gens qui utilisent des détecteurs de métaux, on peut, en fait, les retracer. On peut, s'attaquer aux pierres d'une certaine manière. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, Vincent Michel, sur l'objet pillé, si on ne sait pas qu'il existe, et c'est le grand paradoxe, comment savoir qu'il existe? Comment savoir qu'il a été pillé? Il y a presque un vertige, en fait, de l'objet pillé.
Alors c'est vrai que tous entendu, on a aussi tous lu que le trafic des biens culturels est au troisième rang des trafics après les stupes et puis
les armes.
Et puis les armes. Bon, je sais pas, je crois pas. Hein, je pense qu'il y a d'autres,
Ce serait possible en même temps vu le marché de l'art.
Le trafic de capitaux, le trafic de médicaments, le trafic d'êtres humains, le trafic du pétrole. Le problème c'est que si je vous avais dit le trafic des biens culturels est au 49e rang, vous n'aurez pas invité.
Non,
parce qu'en fait, vous auriez dit, bon, on va attendre, effectivement, de traiter les 48e avant, Non, mais c'est vrai.
On n'est pas une émission focalisée uniquement sur les trafics.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que, voilà, troisième, on se dit, oh là, mais c'est presque le premier. Bon, alors, moi, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'utilise comme ouais. critère, c'est toujours trois choses. C'est les pillages. notre réseau, effectivement, donc d'homologues, archéologues, historiens de l'art, hommes de culture et de patrimoine dans les pays, effectivement, donc sujet à ce type de pillage, m'envoie des photos ou par les réseaux sociaux, on est au courant en fait de tout ça. Et il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine où un site n'est pas passé effectivement au crible justement de bulldozers. Hein. Il y a plus de 100 sites en Afghanistan Hein, ça, c'est Philippe Marquis, le directeur de la DAFA, hein, qui estime à plus de 100 sites qui ont été totalement détruits par justement, par des bulldozers. Autant vous dire qu'après un bulldozer, il ne reste plus rien. Hein. Donc c'est ça, c'est l'état des sites. Mmh. Hein. C'est-à-dire que ces sites orientaux, d'où un repos à Pamé, où vous avez 1800, 2000, 2300 trous laissés par les pilleurs. Vous savez, un trou, c'est quoi un trou ? Un trou, c'est entre 4 et 6 mètres de diamètre. C'est entre 2 et 4 mètres de profondeur. Mmh. Donc, ce sont des centaines de milliers de mètres cubes qui vont être tamisés à la recherche de l'objet.
Et qui sont complètement fichus
en fait. Vous imaginez tous ces trous.
Oui.
C'est-à-dire que le but, c'est quand même de trouver un objet. Ouais. Et cet objet, après, on ne creuse pas des trous pour planter des arbres. Donc ça veut dire que là aussi il y a encore un travail archéologique fait par des trafiquants. Deuxième critère, c'est qu'il y a vraiment un nombre exponentiel de sites internet et surtout d'objets en fait que l'on trouve à vendre sur ces sites internet. Et bizarrement, il y a quand même beaucoup d'objets issus des zones de conflit. Bizarrement, il y a beaucoup d'objets qui sont métalliques. Hein, et donc zone de conflit, les objets orientaux et les objets métalliques découverts par des détecteurs de métaux. Et puis le troisième critère, c'est alors heureusement, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, moi je travaille beaucoup en interdisciplinarité, je travaille toujours avec les policiers, les douaniers, les magistrats, et l'idée c'est vraiment de fluidifier tout ça, et c'est vrai qu'on a quand même de plus en plus justement des saisies. Je dis souvent finalement aux policiers, aux douaniers, lors de c'était l'ancien colonel de l'OCBC qui avait cette formule. Quand je demande justement à mes gars d'aller faire des perquisitions ou des visites domiciliaires à la recherche de stupes ou d'armes, je leur dis de regarder sur la cheminée, parce que sur la cheminée il peut y avoir une statue. Et cette statue maintenant peut faire partie finalement du trafic. Hein. Parce qu'une statue c'est quoi? C'est 100 euros, 200 euros, 10 000 euros, 100 000 euros? Hein. Mmh. Et on voit bien, hein, les trafiquants, il y a quelques mois, au hasard de lecture sur le blanchiment, un trafiquant de drogue, effectivement, blanchissait son argent avec un trafic de cartes Pokémon. Vous voyez, tout est à blanchir. Hein, et bon. Alors c'est pour ça que il y a encore quelques années, je vous aurais dit, le trafic, c'est quoi? C'est un pilleur qui est la source, c'est un intermédiaire qui va blanchir, qui va raconter une histoire, qui va aider au passage de la première frontière, qui va donc essayer de brouiller les pistes, puis après vous aviez le marchand, puis après vous aviez le collectionneur. Le problème, c'est que maintenant, avec Internet, moi, en 5 clics...
Plus besoin d'intermédiaire.
Moi, je vous transforme en quelques minutes, effectivement, en parfait pilleur. Pourquoi? Parce que, les réseaux sociaux, mais surtout les tutoriels, eh bien, on trouvera forcément un tutoriel pour comment détecter... D'ailleurs, je ne voudrais pas dire ça, mais comment détecter, justement, un site archéologique, comment fouiller, comment le déterrer, comment le nettoyer, comment avoir une idée du prix, et puis comment l'envoyer. Parce qu'il y a un déplacement, en fait. C'est très grave, en fait. C'est qu'au départ, le marché de l'art était dans quelques mains de spécialistes, les commissaires-priseurs.
Avec des marchés et des acteurs identifiables.
Exactement. Et en plus, en toute transparence, les antiquaires, les galeristes.
Les collectionneurs.
Les collectionneurs. Et puis, avec Internet, on a vu, justement, des sites, je ne cache pas les mots, mais comme eBay, comme Le Bon Coin, comme Katawiki, comme aménagermonchâteau.com, il y a plein de sites comme ça où on peut acheter des objets pour quelques euros ou pour quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis comme ils se sentent effectivement un peu épiés, eh bien hop, le trafiquant va s'adapter maintenant il traite directement via des groupes privés, Snapchat, TikTok, Telegram, Facebook aussi. Et alors là, c'est vrai que le chercheur a besoin de data. Ce que je vous dis, c'est absolument pas une intuition, une impression ou une idée. C'est que notamment pour Facebook, il y a eu une étude très 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 récente. 2019 et de 2020, donc fait par deux chercheurs, l'une américaine, Cathy Paul, et puis une autre d'origine syrienne, qui ont systématiquement donc investi les groupes privés, donc Facebook. Ils ont découvert 200 groupes Facebook où s'échangent, des lieux de transactions, des lieux de pillage, rassemblant quelques 2 millions de membres. Et pour moitié, issus de zones de conflit, alors plutôt dans le monde arabe, hein, et l'autre moitié issus de zones frontalières à des zones de conflit. Donc vous voyez que la difficulté, c'est pour ça que je parle vraiment de polymorphie, hein, vraiment de le trafic, c'est pas, c'est très compliqué. Il n'y a pas de recette. Enfin, s'il y avait des recettes, de toute façon, je serais pas là. Bon. Mais voilà, il y a la polymorphie effectivement des trafiquants, la polymorphie justement des manières justement de trafiquer. Voilà, avec des acteurs qui ne l'étaient pas, qui sont difficiles justement à détecter, parce que voilà, la prise de conscience qu'un objet a une valeur financière fait que c'est à la portée de tous.
Mais alors comment faire pour lutter contre ça, sachant qu'on a des lois, on en a parlé Vincent Michel, il y a aussi différents organismes en France, on peut citer l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, il y a les douanes, il y a le service des musées de France, il y a vous par exemple qui êtes archéologue, qui formez des étudiants à être sensibilisés à ça, il y a le fait aussi qu'on distingue, on l'a dit tout à l'heure, un objet volé, donc c'est-à-dire qu'il va être inventorié, documenté, tracé, et qu'on est quand même dans cette idée d'inventaire des objets, et ce qu'il faut faire aussi pour les objets pillés, enfin dans la mesure où c'est possible, vu qu'un objet pillé est un objet orphelin, donc sans histoire et presque inutilisable, enfin pas exploitable. Qu'est-ce qui vous reste alors à faire ?
Un trafic complexe et global nécessite absolument pas une réponse justement générale. C'est-à-dire justement, quels sont les différents acteurs ? Bon, vous avez bien évidemment les enquêteurs. Hein. Alors, mais les enquêteurs, encore faut-il qu'ils soient en nombre et bien formés. Hein. C'est-à-dire que nous,
là, on parle de policiers, par exemple.
Ouais. Alors c'est vrai que la convention de 1970 demande, souhaite. Appelle les États-parties justement et bien à contrôler importation, exportation et circulation des biens culturels, mais aussi à également avoir une police. Hein, donc qui est dédié. Alors nous on a la chance effectivement depuis 1975 hein, d'avoir effectivement une police dédiée, donc l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, donc l'OCBC, qui est un organe bicéphale avec moitié gendarme et moitié policier, qui fait un travail effectivement exemplaire. Et puis vous avez effectivement aussi les douanes. Hein, mais alors là c'est plusieurs services, c'est peut-être entre 10 et 15 personnes, mais c'est une force de frappe incroyable. Les douanes, c'est la capacité à pouvoir contrôler à l'importation, à l'exportation et à la circulation. C'est-à-dire que vous pouvez librement vous promener, avec finalement des objets avec vous. Or, les biens culturels sont dérogatoires à la liberté de circulation. C'est-à-dire que si dans votre coffre vous faites arrêter avec une statue, vous avez l'obligation de prouver que cet objet, hein, que vous n'êtes pas simplement le légitime possesseur, mais le légitime propriétaire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. Vous voyez, un policier dirait, policier, je dois prouver que vous êtes le voleur. Mais là, dans le cadre d'un contrôle douanier, eh bien, c'est à vous de prouver que vous êtes le légitime propriétaire. Oui. Donc là, avec tout document. Hein. Si jamais vous pouvez pas, ah oui, mais c'est, je tiens de ma grand-mère. Vous avez un papier ? Non. Eh ben, hop, l'objet, effectivement. Les enquêteurs. Vraiment, c'est parce qu'on parle encore une fois de trafic. C'est pour ça que moi, je les mets au cœur de ce dispositif. Les gendarmes aussi hein, font un travail fantastique dans le monde rural et dans cette proximité hein, qu'ils ont avec les sites justement de pillage, enfin potentiellement du pillage.
Donc on s'arrête sur cette idée, Vincent Michel. On a fini l'émission. Importance des douaniers, des policiers. Vous avez vu, c'est passé vite, hein. Merci beaucoup Vincent Michel. De vous, on peut lire un article sur le trafic illicite des biens archéologiques dans la revue numéro 33 du Grasco. Grasco, c'est le groupe de recherche action sur la criminalité organisée. Merci beaucoup.
Merci. Everybody wanna make grand up, grand up, what you gonna
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Laure Dallest, réalisation Nicolas Berger, prise de son Jean-Frédéric. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.